tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, votre nouveau rendez-vous LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addictif. Cette semaine, aux marges du territoire, une série de Julie Gacon réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des entre-deux, des confins qui sont des commencements, autant que des fins, des lieux familiers et pourtant étrangers, de ces territoires qui mordent les uns sur les autres, que l'histoire a enchevêtrés et que l'usage rend hybrides. Des endroits qui sont des frontières administratives où l'on traque les migrants, autant que des territoires d'enfance. Des lieux indéterminés à statut particulier, où la prostitution a pu s'installer. Des lignes imaginaires qui sont pourtant parfois la limite réelle entre la mort et la vie, ou simplement un lac qui sépare le pays où l'on vit de celui où l'on travaille. Pour commencer, les personnages. Un maire qui ne veut pas oublier ce fonctionnaire qui fournissait des faux papiers, un réfugié qui se souvient des passeurs qui l'ont aidé, des fils de résistants, des historiens qui démêlent les chevaux de ces histoires et redonnent leur nom à ceux qu'on a oubliés. Ensuite, le décor. Un cimetière sur la commune de Roussy, un frais matin d'automne, des souvenirs qui mouillent les yeux, des mémoires fragiles qui sont celles de la Seconde Guerre mondiale, des rues calmes, un petit territoire avec une histoire complexe et sa langue bien à lui. On est au Luxembourg, juste à côté de la France, si près qu'il suffit de traverser un pré pour y aller.
Johnny Schmidt avec à la fin DT.
Oui. C'est entendu, monsieur Schmidt.
Oui.
Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous êtes sorti de cette gare?
Oui. Ça faisait nuit.
Il faisait nuit.
Et ce côté-là, il était un homme qui a fait le signe avec sa lampe aux passeurs et nous sommes allés ensemble à Nidecourt. Ça fait 4 km ou 5 où j'étais caché pendant 48 heures.
48 oui. heures.
Et le lendemain, c'était le 18 octobre 1943. Le père de M. Gurus est venu le matin à 5 heures.
À 5 heures.
Pour me donner les faux papiers et pour m'instruire comment je dois faire pour faire ce long voyage à Clermont-Ferrand.
Jeu de frontières. Entre la France et le Luxembourg. Julie Gacon, Yvon Croisier.
Entre la France et le Luxembourg, l'histoire, comme un trait d'union par-delà la frontière. L'histoire d'un pays, le Grand-Duché, envahi et annexé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les histoires individuelles des jeunes luxembourgeois ne voyant d'autre salut que de gagner la France pour échapper à un enroulement de force dans la Wehrmacht. Les destins se jouent autour de la frontière. Les réseaux de résistance, les passeurs et les filiéristes, notamment du groupe Pimen, s'organise pour aider les déserteurs dans leur exil, jusqu'à la banlieue de Clermont-Ferrand et son centre d'accueil clandestin des Ancises, supervisé par un compatriote, Albert Ungerheuer. Un Français d'origine lorraine, un ancien voisin donc, usant de sa situation de fonctionnaire de préfecture, leur fournit des faux papiers. Marcel Mayer, à qui on a rendu hommage le samedi 24 septembre 2016 au cimetière de la commune frontalière de Roussy, côté France, en présence du secrétaire d'État aux anciens combattants, d'un ministre luxembourgeois et de quelques représentants des forces armées des deux pays.
À l'occasion de M. Vincent Faïs, président de l'association Ungerheuer.
La commémoration annuelle Marcel Mayer constitue un moment important du calendrier patriotique. Il s'agit d'une occasion particulière de souligner l'amitié franco-luxembourgeoise, de mettre en exergue les canaux que d'intrépides Français et luxembourgeois avaient mis en place à divers endroits de la frontière franco-luxembourgeoise pour permettre aux réfractaires à l'enrôlement forcé dans la Wehrmacht, aux résistants et à tous ceux qui, pour diverses raisons, étaient poursuivis par la barbarie nazie, de rejoindre des eaux plus calmes, en tout cas temporairement plus calmes, celles des Ancises. Telle fut la finalité de la filière d'Albert Ungerheuer. Après avoir atteint les Ancises, il importait que ces jeunes trouvassent papier d'identité, emploi, et c'est là que Marcel Mayer intervenait. Il donnait à ces personnes la respectabilité et une existence officielle. Tout séparait Marcel Mayer et Albert Ungerheuer, mais eux et leurs compagnons étaient unis dans le même désir d'aider, dans la même volonté de défier l'ordre nazi. Unis dans la bravoure, dans la fraternité, ils le furent aussi dans les innombrables, innommables tortures qui leur furent infligées et dans la mort.
Un monde désuni, un monde où les hommes libres n'avaient pas encore trouvé leur cause commune, l'agression allemande les a terrassés après avoir submergé chaque nation une par une. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940, le Luxembourg, il était seul, neutre, seul. Et l'Allemagne s'attaqua à la fertile Hollande.
Deutschland, Land der Freude, o du mein Heimatland. Hier schwören wir aufs Neue, Treue mit Herz und Hand. Deutsche, seid Brüder, reicht euch die Hand. Heil unserem Führer, heil dem Vaterland.
Alors, le 10 mai 1940, donc le jour de l'invasion, le Luxembourg est un pays qui, jusque-là, a essayé de préserver une très stricte neutralité. C'est comme ça que le pays est né, par le traité de Londres en 1867. Donc on en est toujours là, lorsqu'a lieu l'invasion.
Vincent Artuseau, quel est l'intérêt de l'Allemagne d'envahir un petit pays comme le Luxembourg ?
Alors, l'intérêt stratégique, déjà, il est que le Luxembourg est sur le chemin des Panzerdivision qui foncent vers la France. L'autre intérêt est aussi un intérêt économique, qui est l'industrie sidérurgique, qui représente un intérêt stratégique énorme pour l'industrie de guerre allemande. Et puis s'y ajoute, du point de vue idéologique, le fait que la population luxembourgeoise est considérée comme étant racialement allemande par le régime nazi. Alors, dans un premier temps, le pays est soumis à une administration militaire allemande. Et cette période a longtemps été présentée comme une période où rien d'essentiel n'avait changé et où le régime d'occupation aurait été un régime plutôt doux, surtout comparé à ce qui est intervenu dans la suite, c'est-à-dire à partir du début août 1940, une administration civile soumise à un Gauleiter allemand, et donc l'annexion de fait du pays au Reich.
Vincent Artuzot, racontez-nous le passage de la frontière de ces Luxembourgeois dont on a encore peu parlé, le couple grand-ducal.
Bien, le matin du 10 mai 1940, la famille grand-ducale est réveillée en sursaut. Les nouvelles de l'invasion lui parviennent en fait aux petites heures du matin. Donc la famille grand-ducale quitte sa résidence, les ministres prennent la fuite. Et là encore, ce qui montre la non-préparation de cette fuite est le fait que l'un des ministres, en l'occurrence le ministre de l'Éducation et de l'Agriculture, ne parvient même pas à partir en exil, puisqu'il est prévenu trop tard et qu'il est rattrapé par l'avance des troupes allemandes. Donc, en milieu de matinée du 10 mai 1940, la famille grand-ducale se retrouve coincée dans le coin sud-ouest du pays, non loin des frontières belges et françaises. C'est à peu près vers 9h que finalement la frontière est franchie, en voiture. Tout cela se fait presque dans les mêmes conditions que ces millions de Belges, de Luxembourgeois donc, et de Français, qui prennent le chemin de l'exode au même moment.
Dès le matin du 10 mai, commence au Luxembourg et en Belgique le douloureux exode sous la menace des bombardements aériens qui, toute la nuit passée, ont en Belgique et en France surtout incendié et massacré en attentats inexpiables contre villes ouvertes et villages.
La Grande-Duchesse est vraiment le symbole de la résistance nationale dans le Luxembourg occupé. Le gouvernement est extrêmement impopulaire, puisque la population sous occupation considère que le gouvernement a fui et l'a laissé tomber. Mais ce reproche n'est pas fait à la Grande-Duchesse Charlotte. La foi catholique jouait à l'époque un rôle extrêmement important au Luxembourg, et notamment le culte marial. Et il se trouve qu'il y a une sorte de parallèle qui est fait entre cette Vierge qui est aux cieux et cette femme souveraine qui n'est pas aux cieux, mais qu'on ne peut plus atteindre parce qu'elle est loin, elle est à Londres.
La Grande-Duchesse qui va interpeller les Luxembourgeois dans chacun de ses discours en leur parlant en luxembourgeois et en commençant toutes ses allocutions par « mes chers Luxembourgeois ».
Le fait que la Grande-Duchesse, dans ses allocutions, soit exprimée en luxembourgeois était crucial, puisque sa langue maternelle était le français. Pour la première fois, les souverains du pays s'expriment dans la langue du peuple. Ce qui, en ce moment de lutte pour l'indépendance nationale, est un symbole d'une importance extrême.
Pendant ce temps-là, l'Allemagne nazie, par l'entremise du Gauleiter, demande aux Luxembourgeois d'être plus allemands que les Allemands, d'être de vrais citoyens allemands en tout cas.
Ce qui était exigé de la population, c'était que non seulement elle se proclame allemande, mais qu'elle adhère à l'idéologie nationale-socialiste.
Trat die luxemburgische Freiwilligenkompanie, die aus rund 350 Mann besteht, zur volksdeutschen Bewegung über. Der Kommandant meldet dem Gauleiter Simon den vollzogenen Übertritt.
Gilles Revenig, la date qui va déclencher cette solidarité souterraine, entre autres entre la France et le Luxembourg, entre le Luxembourg et la France, c'est le 30 août, à partir du 30 août 1942, l'incorporation de force est décrétée pour les jeunes luxembourgeois. Et là, c'est le début des exils plus organisés, des filières vont se mettre en place.
Les Allemands, ils avaient fait un référendum sur concernant la langue allemande. Quelle était la langue des Luxembourgeois? Et les Luxembourgeois, ils ont tous marqué luxembourgeois et pas allemand. Et ça brusquait les Allemands. Et Gustav Simon, c'était le Gauleiter, il était très brusqué. Et une des occupations principales du Gauleiter était de faire Sangau Judenrein.
C'est-à-dire d'expulser les Juifs de son territoire.
D'expulser les Juifs de son territoire. Et aussi, quand la guerre devient plus pénible... La Zwangsrekrutierung, c'est-à-dire l'enrôlement de force, c'est-à-dire tous les Luxembourgeois devaient faire partie de la Reichswehr, de l'armée allemande. Ceci provoque de vives réactions chez le peuple luxembourgeois. Notamment, il y a une grève en septembre 1942. Cette grève dure quelques semaines. Il y a des gens de toutes les couches sociales, des jeunes, des instituteurs, des simples travailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de Luxembourgeois doivent se cacher parce qu'ils sont recherchés par les Allemands. Der Sternengericht exécute beaucoup de peines de mort.
Le tribunal allemand.
Le tribunal allemand exécute beaucoup de peines de mort. Et c'est à partir de ce moment-là que les jeunes qui ne voulaient pas faire partie de l'armée allemande, ils... tenter de s'échapper.
Les réfractaires.
Les réfractaires, oui.
J'ai été enrôlé de force.
Enrôlé de force dans
oui.
La Wehrmacht.
Et quand j'ai eu la permission... C'est Monsieur Alex Beuvant, le propriétaire de la maison, qui était 6 mois au camp 7, camp de concentration. Et lui, il a dit, tu ne rentres plus à la Wehrmacht. Alors, il m'a donné quelques sous pour le train. Il ne savait pas exactement où je dois aller, mais il a dit « Reste en uniforme allemand, que tout le monde voit en cas que tu es parti vraiment pour retourner à la caserne. » C'était la même journée que je dois retourner à l'Est, comme on dit, et je suis parti à l'Ouest. Là, c'est une personne qui m'a amené dans une chambre. Je me suis changé en civil. Et quand j'ai sorti de ce couloir, c'est la mère de M. Gurus, Madame Blanche, qui d'abord demandait « Est-ce que vous êtes M. Schmitt ?» Alors, suivez-moi jusqu'à la gare Luxembourg. Nous allons à Differdange. Et le jeune homme-là, il m'a amené à Niederkorn.
Niederkorn, qui est juste à côté.
Oui, c'est juste à côté. Et je voulais encore dire merci. Et madame était partie. C'était tellement bien organisé. Alors, le matin, vers 5 heures, c'est le père Gurus. C'est un homme qui était dans le camp de concentration. Et après, il a commencé quand même de nouveau à aider des centaines de réfugiés, des prisonniers. Et il m'a donné la fausse carte d'entrée, la fausse carte d'identité.
La fausse carte d'identité.
Identité, oui. Il est très intelligent, ce passeur Gurus. Il savait que j'étais étudiant musicien pour retenir le faux nom. Il m'a nommé Sidou. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec té, si, do.
C'était votre nom français.
C'était mon nom français. Si, do.
Vincent Fally, qu'est-ce qu'on peut dire de ces Luxembourgeois qui passaient la frontière française ?
C'est-à-dire que, comme vous le savez, le Luxembourg a été frappé par un crime effroyable qui était l'enrôlement forcé, hein, comme l'Alsace-Lorraine d'ailleurs, ce qui aboutit à la fameuse grève de septembre 1942, qui est un des rares, malheureusement rares moments d'une opposition affichée d'une grande partie de la population à des décisions prises par ce qui était l'occupant. Et ça aboutit évidemment au fait que ces jeunes ne voulaient pas porter, pour la plus grande majorité d'entre eux, cet uniforme. Hein. Donc certains, évidemment, ont essayé d'être insoumis à cette décision, dès lors où ils connaissaient des personnes qui pouvaient les cacher, parce qu'énormément de jeunes ont été cachés dans des bunkers ici au Luxembourg, dans des anciennes mines. Il faut dire aussi que pour tous les Luxembourgeois frappés par cet enrôlement de force, c'était un choix cornélien, parce que vous aviez des frères dans une famille, dans une fratrie, et bon, si un n'y allait pas, c'est les autres qui devaient y aller. Bon, donc il y a eu 10 000 vraiment qui ont été appelés réellement sous plus de 10 000 sous les drapeaux de la Wehrmacht. 3 000 ont réussi, à pratiquement s'échapper, plus de 3 000.
Alors, on est ici à La Sauvage, Jim Gueresse. La Sauvage, c'est un hameau de la ville de Differdange qui était le plus important centre d'évasion luxembourgeois vers la France. Elle était très surveillée, cette frontière franco-luxembourgeoise ?
Oui et non. Elle était, à partir d'un certain moment, quand les Allemands ont réalisé qu'il y avait quand même des passages toujours plus nombreux qui se faisaient. Mais ce qui était vrai aussi, c'est que dans les alentours, il y avait des gens, disons, qui étaient très observateurs, qui notait les passages réguliers de certains douaniers. Alors il savait exactement attendre le bon moment dans la forêt avec leurs passeurs. Donc il y avait là des gens motivés et sans aucun regard pour ce qu'ils encouraient de risques. Et il est vrai que ce qu'ils faisaient à Differdange, ils essayaient de ne pas trop s'organiser comme une grande association. C'est-à-dire, on est à 3-4 à se connaître et on ne sait même pas que notre cousin du village d'à côté participe aussi dans le même mouvement parce que ce n'est pas connu.
C'était des simples gens qui travaillaient par exemple dans les mines ou à la commune, des instituteurs. Ils faisaient partie de toute la gamme
de la société.
De la société. Il y avait aussi une belle collaboration entre le Luxembourg et les villages frontaliers du Luxembourg, parce qu'il y a par exemple des cas où les communes voisines françaises procurent des faux papiers aux Luxembourgeois, et on ne connaît par contre pas de cas où un passeur offrait ses passagers aux nazis.
Le concept de passeur de la Deuxième Guerre mondiale est un concept positif, honorable. Celui de passeur aujourd'hui, c'est évidemment, rappelle tout ce qui concerne évidemment toutes ces populations qui en Syrie, en Irak, essayent de quitter des théâtres d'opération pour trouver un havre de paix quelque part. Bon, et que les passeurs ici, mais ce sont des passeurs qui sont munis essentiellement par le but de goût de lucre. Ici, ces passeurs-ci, on parle des passeurs, on parle aussi des bienfaiteurs, ceux qui ont hébergé des enrôlés de force. Mes grands-parents étaient par exemple dans ce cas-là. Et là, s'ils se faisaient prendre, c'était aussi le risque maximal. Bon, mais je crois que ce qu'il faut retenir, et je crois que c'est très important, c'est le nom de fraternité. Parce que tous ces gens faisaient cela pour rien. Hein? Donc que ce soit Marcel Maillet, que ce soit Berun Goyot, que ce soit les gens qui hébergeaient des réfractaires ou des déserteurs, ou des résistants ou des aviateurs, eh bien tous ces gens le faisaient par idéalisme. C'était véritablement de très grandes âmes qui étaient à l'œuvre.
Jim Gueresse, est-ce que vous pouvez nous parler de votre père, Josy Gueresse? Donc l'un des chefs du réseau Pimen, qu'est-ce que lui mettait comme conviction derrière ce terme qu'on emploie encore aujourd'hui, mais qui a une autre connotation, le terme de passeur.
Au niveau des passeurs, il leur accordait un sacré respect. Il disait toujours qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer dans ces forêts à guetter donc, les chiens et les soldats ou les douaniers allemands. Ces gens étaient là dans la nuit et rentraient à 5 heures du matin en laissant les évadés à ce monsieur français qui faisait les derniers mètres. Et ils retournaient pour à 6 heures entrer dans l'usine faire leur boulot. Et cela, ils le faisaient à longueur de mois, sans jamais demander n'importe quelle reconnaissance. Mais quand j'y pense encore aujourd'hui, à moi aussi, ça me fait parfois un peu des frissons dans le dos. Pour lui, c'était vraiment des personnages hors pair. Hein.
Allocution de M. Benoît Stametz, maire de Roussy le village.
Face à la banalité du mal si bien décrite par Hannah Arendt, se sont levés des hommes d'exception. Ils avaient une famille, des parents et des enfants. Ils avaient un métier et un logis. Pour défendre notre liberté, pour défendre les valeurs auxquelles ils croyaient, ils ont choisi de ne pas regarder ailleurs, de ne pas fermer les yeux, de ne pas se compromettre avec l'occupant. Les commémorations comme celle d'aujourd'hui permettent de rappeler que l'histoire avec une majuscule rend à chacun ce qu'il a été, permettent de transmettre la mémoire aux jeunes friands de super-héros. Et pourtant, ces résistants n'ont pas voulu être des super-héros. Ils se sont levés simplement parce qu'ils pensaient que tel était leur devoir face à l'oppression et face à l'occupation.
Cette petite forêt dans laquelle on est entré, Jim Gerès, presque en quittant la ville de Differdange, elle nous conduit, si on continue ce petit sentier là, loin de la route, elle nous conduit vers la frontière.
Oui, on est exactement dans un des sentiers que les évadés ont pris. Donc c'est par ici que bon nombre d'entre eux se sont approchés de la frontière française, avec l'avantage qu'il y avait un des passeurs qui habitait dans une baraque vraiment tout près d'ici. Donc ils étaient au courant aussi de ce qui se passait là au niveau de la présence de gendarmes ou de policiers ou de soldats allemands. Donc les évadés, après avoir pris ce chemin dans cette forêt ici, ils attendaient le bon moment pour au changement des horaires à 6 heures du matin. Ils se mêlaient donc aux travailleurs qui sortaient de la mine à 6 heures.
Il était encore un passeur. Il nous a conduits pour descendre à Roussigny. C'est la France, Roussigny.
Roussigny.
Et dès que les premiers sont sortis de l'usine, je me suis mêlé, est-ce qu'on dit mêlé,
oui.
Parmi eux.
C'est-à-dire, vous étiez habillé en bleu de travail comme les ouvriers de l'usine du Ciné.
Voilà. Oui.
Donc vous avez dû attendre la sortie de l'usine pour vous mêler aux ouvriers français. Et du Luxembourg, vous êtes passé en France. Vous êtes arrivé à Longwy.
Oui. Et à Longwy, j'avais une adresse. Et quand nous avons sonné et frappé à la porte, une autre dame, le voisin, il a dit « Méfiez-vous, sauvez-vous, parce que hier, la Gestapo a arrêté cette personne. » Et en ce moment, on était quand même encore des enfants. Malgré nos 19 années, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, nous avons pris le train jusqu'à Nancy. Et à Nancy, nous avons hébergé, comme on dit.
Vous avez été hébergé?
Oui. Dans l'hôtel de Strasbourg. Eux, ils savaient que nous étions des Luxembourgeois. Et le matin, à 6 heures, on a se levé pour prendre le train. qui est allé directement à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, je me rappelle encore bien, la Gestapo était à la gare. Je les connais avec leur chapeau et leur manteau, etc. Mais au premier moment, j'ai réfléchi quand même. Il y était une vieille dame qui avait bien chargé avec les valises. Oh, j'ai dit, madame, je vous aide. Donnez-moi une valise jusque devant la porte. Oh, c'est gentil, elle m'a donné tout de suite. Alors, en cas que la Gestapo aurait dit, oh, c'est la maman avec leur fils. Alors, après Clermont-Ferrand, j'ai reçu correspondance pour aller à Les Anciennes.
Au début des évasions, c'était plutôt autour de Montpellier qu'il y avait des gens qui se destinaient, vu aussi que là, il y avait un centre de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Mais ces places devenant toujours plus risquées, avec un accueil disons, moins sûr, c'est après que Albert Ungerheuer avait découvert ce site des Anciennes que par après, la majorité des départs venant de Differdange se sont orientés vers les Anciennes.
Mais pourquoi les Anciennes d'ailleurs ?
C'est vrai qu'il avait trouvé des patriotes français super engagés, commençant avec ce petit hôtelier là qui mettant à disposition ses quelques chambres et son restaurant. Et puis il y avait là possibilité d'emploi tout autour, dans beaucoup de fermes ou dans des entreprises. Mais il y avait aussi cette usine gérée par un luxembourgeois qui n'a jamais voulu qu'on parle beaucoup de lui, mais qui a vraiment là offert du travail, plus de la nourriture, du ravitaillement, et sans que vraiment aucun des évadés ne l'a jamais rencontré. Jusqu'à ce que, vu le nombre toujours plus grand d'évadés, il y a eu les risques qui ont à la fin aussi causé la perte du centre des Anciennes.
À Les Anciennes, Albert Ungerheuer avait la charge de trouver du travail pour tout le monde. Alors il a dit, mais il y a juste 6 personnes qui prendront le train pour la Pérouse pour travailler dans une distillerie agricole. On faisait de l'alcool avec des betteraves et des trompinopours. Tiens, j'ai trouvé le nom. Ils sont bien sucrés et on peut faire de l'alcool avec ces trompinopours, oui. Nous étions engagés comme des travailleurs lourds, comme on dit.
Costaud,
oui. Et ça durerait jusqu'à le 5 mai 1944, oui.
Jim Gueresse, ce réseau des Anciennes, il s'assoit, il repose sur un certain nombre de bonnes volontés, très diverses, donc Albert Ungerheuer qui gère tout ça, ce chef d'entreprise luxembourgeois qui préfère rester dans l'ombre mais qui emploie ses compatriotes réfugiés, et un obligeant préposé de la préfecture de Clermont-Ferrand, Lorrain d'origine, qui connaît très bien lui-même les luxembourgeois pour avoir été leur voisin pendant de nombreuses années, Marcel Meyer. Qu'est-ce qu'on sait de lui ?
Oui, la chose que moi, sur les traces dont je dispose, c'est que Marcel Meyer a là-bas, donc dans sa qualité de préposé à la préfecture là, du service aussi qui s'occupait donc des réfugiés, du placement, qu'il a fourni au réseau d'Alberon Goyer plein de documents, plein de certificats aussi. Donc il a été un pilier important dans le placement et dans la mise en sécurité de ces jeunes luxembourgeois. Mais c'était quand même une des nombreuses personnes françaises qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à soutenir les luxembourgeois qui étaient là, éparpillés dans toute la région. Et Marcel Maillère était sans aucun doute un des personnages qui leur a là fourni des documents qu'il fallait pour passer sous les nombreux contrôles qu'il y avait.
Allocution de M. Guy Arendt, ministre luxembourgeois de la Culture.
Les temps extraordinaires font naître dans des êtres d'exception les capacités de se surpasser. Marcel Maillère fut de ces hommes exceptionnels, de ces héros qui ne font pas de distinction quant à la nationalité de ceux qui l'aidaient. Le Grand-Duché de Luxembourg restera toujours reconnaissant à des hommes comme Marcel Maillère, à l'hôtelier Jean Cros, aux Ancises et aux autres résistants français pour le courage et le dévouement avec lesquels ils ont aidé nos compatriotes en ces temps sombres. Mesdames, Messieurs, à visualiser les images des violences quotidiennes de l'actualité, leur histoire, leur exemple reste d'une brûlante actualité. Soyons tous des Marcel Maillère d'aujourd'hui.
Willy Saver, c'est aussi cette forte amitié qui existe depuis des décennies entre la Lorraine et le Luxembourg qui a permis des histoires comme celle de Marcel Maillère, lorrain, qui va aider ses anciens voisins, en fait, les luxembourgeois. Il les connaissait très bien.
Oui. Alors, il y a un lien commun, c'est la langue. C'est le francique, c'est le patois luxembourgeois. Parce qu'à l'époque, tout le monde, dans les campagnes, tout le monde parlait le luxembourgeois, enfin le patois lorrain, qui est très similaire du luxembourgeois.
D'ailleurs, Willy Saver, Roussil-Village, dont vous avez longtemps été maire, a été en terre luxembourgeoise.
Tout à fait. Nous faisions partie du Luxembourg, à l'époque, avec une dénomination poétique, c'était le département des belles forêts. Et j'en faisais la remarque à monsieur le secrétaire d'État. Vous prenez un cimetière luxembourgeois, vous prenez un cimetière français de notre région, vous retrouvez beaucoup de noms communs, hein, de l'un et de l'autre côté de la frontière. Hein. Donc ça veut dire que ce brassage a toujours existé. Hein.
Vincent Artuseau, je ne m'adresse plus à l'historien que vous êtes, mais au luxembourgeois né à la frontière. Quel rapport intime vous avez, vous, avec cette frontière franco-luxembourgeoise ?
J'ai grandi à Differdange, mais je suis né juste de l'autre côté de la frontière, en France, et mon rapport est intime, en effet. Que quand on passe d'un côté à l'autre de la frontière, on voit bien qu'on n'est pas dans le même pays. Et pourtant, on passe très facilement. Et les ponts sont nombreux, puisque au Luxembourg, tout le monde parle le français, tout le monde parle l'allemand aussi. C'est une terre très paradoxale, où d'un côté, il y a eu un nationalisme très vif, très affirmé, et en même temps, l'un des piliers de ce nationalisme, de cette identité, est le fait d'être une terre de frontières et d'être un entre-deux, de savoir que l'on doit vivre en symbiose avec ses voisins tellement plus grands.
Willy Saver, rendre hommage à un homme comme Marcel Maillère, c'est donner un sens aux relations franco-luxembourgeoises auxquelles vous êtes si attaché.
Absolument. Au Luxembourg, ils ont été très rapidement envahis en 39-40. Et énormément de luxembourgeois ont donc choisi de quitter le Luxembourg et ont choisi la France pour terre d'asile. Et je dois dire que dans la majorité des cas, ils ont été bien accueillis, ils ont été bien intégrés. Et des personnes comme Marcel Maillère, il y en a eu plusieurs dizaines quand même, qui n'ont peut-être pas tous connu un sort aussi malheureux. Parce que bon, je pense que Marcel Maillère n'était pas le seul faussaire de l'époque pour aider des amis, quoi, hein, puisque bon, ils se considéraient comme tels. Hein. J'ai pu m'entretenir après avec monsieur le secrétaire d'État à la Culture et je lui ai rappelé qu'à l'issue de la guerre mondiale 14-18, le Luxembourg était exsangue. Et énormément de luxembourgeois sont venus trouver leur travail en France. Et il s'est créé des amicales de luxembourgeois dans les vallées industrielles. Et ils s'en souvenaient fort bien, l'histoire quelquefois a des soubresauts, vous voyez, c'est nous qui allons travailler chez eux maintenant. Hein. Et il m'a fortement remercié d'avoir cité le chiffre de 87 000 travailleurs frontaliers qui tous les jours trouvent leur emploi au Luxembourg.
Allocution de M. Jean-Marc Todicini, ministre français des anciens combattants et de la mémoire.
Mesdames et messieurs, il y a tout juste un an, je me trouvais ici, à Roussy-le-Village, pour commémorer une histoire constitutive de l'identité des habitants de la région et célébrer la mémoire partagée franco-luxembourgeoise. Cette année est une nouvelle occasion de rappeler cette histoire qui scelle l'amitié entre nos deux peuples. Je remercie M. le ministre de la Culture de sa présence, témoignage de son profond respect à l'égard de cette histoire que nous avons en partage et de son attachement à ce que vive et nous survive cette mémoire. Arrêté, cela a été dit, en mars 1944, pour avoir procuré des cartes d'alimentation et des vêtements et obtenu des emplois à des centaines de réfractaires luxembourgeois et mosellans, les deux hommes, Marcel Meyer et Albert Ungeyer, sont envoyés au camp de Natzweiler-Suithof le 19 mai. Ils n'en reverront jamais.
Le 5 mai 1944, on nous a trahi, oui, par un luxembourgeois même, un relais de force, Henri Rollien. Il était à Clermont-Ferrand. Quand il n'a plus de l'argent, il est retourné, ce qui est très dangereux, à Luxembourg. Et près de Metz, la Gestapo a arrêté Rollien. Et à ce moment, le Rollien, il a joué du théâtre devant la Gestapo. Si vous me laissez en vie, je vous dis tout ce qui est passé à l'essentiel, mais il a beaucoup, beaucoup plus fait que la Gestapo a demandé. Vous comprenez? Et le 5 mai, c'était un vendredi à 5 heures. La Gestapo, avec la traite, et 50 soldats ont encerclé l'usine. Et moi, j'étais par hasard dans la cantine.
Quand la Gestapo est arrivée pour arrêter les luxembourgeois réfugiés aux Ancises, vous étiez, vous, à la cantine?
C'est mon voisin. C'était un étudiant. Il a dit, Jean, sauvez-vous, les Boches sont là. J'ai toujours pensé, encore aujourd'hui, presque jour, à cette petite formule, ce petit mot, ces mots. Sauvez-vous, les Boches sont là. Et c'était encore ma chance. J'ouvre la fenêtre et je suis sorti par la fenêtre du premier étage. Et à ce moment, je savais, il y avait pas loin un petit paysan. Je suis allé chez lui et j'ai dit, vous avez peut-être entendu ce qui est passé. si vous êtes un vrai Français, vous me donnez la chance pour m'héberger, et sinon, vous pouvez me dénoncer. Il m'a donné un verre de l'eau et il m'a donné quand même la chance. À côté, il avait un petit maison de foin. Alors je pouvais me cacher dans le foin.
Ce lieu de mémoire, hier lieu de souffrance, est aujourd'hui le symbole d'une communauté de destins, des destins européens qui ont fondé le projet d'une Europe de la paix, de la liberté et de la fraternité. C'est dès le lendemain de la guerre que l'Europe se dote d'institutions dans la vocation et de préserver la société humaine de la haine, de la violence et des discriminations. Mesdames et messieurs, l'histoire de Marcel Meyer et d'Albert Ungeyer coule dans nos veines et dans celles de nos enfants. Nous devons veiller à ce que cette histoire soit transmise à plusieurs voix, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le respect des mémoires. Je vous remercie.
Refrain de l'hymne national. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
Jim Gerus, après la guerre, votre père a construit sa vie de famille et vous a transmis cette mémoire-là en vous donnant ses archives, notamment tout le courrier qu'il a eu avec Albert Ungerhoyer et sans doute beaucoup d'autres documents précieux. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces documents? Comment transmettre cette mémoire-là? Et surtout dans le contexte que l'on sait, où la question de l'exil, des réfugiés, sont des questions qui ont encore un sens, en tout cas.
Oui, je dois d'abord dire que je lui remercie d'avoir laissé ses archives. Et j'ai décidé d'en laisser la majeure partie au Musée de la Résistance, aux archives nationaux aussi. Concernant maintenant les messages transmis par lui, par ce qu'il a fait, ce n'est peut-être pas un hasard qu'aujourd'hui je me retrouve dans ma retraite à travailler encore avec des jeunes réfugiés qui viennent de Syrie, de l'Irak et qui en ont vu des drôles de choses comparées à ce que nous, on a eu la chance de vivre les dernières 30-40 années. Et je présume qu'en partie, cette notion aussi pour essayer d'œuvrer pour ceux qui ont un autre besoin que nous, qui vivons parfois dans une sorte de luxe, je la dois probablement en grande partie à mes parents qui tous les deux ont risqué leur peau pendant la guerre, et je leur en suis reconnaissant puisque je pense que sur ce qui se passe actuellement aussi, le mot de résister regagne toujours plus de valeur, et c'est le message que je voudrais aussi donner à mes enfants, à leur dire écoutez, il y a des choses à faire, il y a toujours un monde répressif qu'il faut essayer de contrecarrer le mieux possible.
Et puis nous sommes quand même arrivés jusqu'à Charleville.
Charleville-Mézières, dans les Ardennes.
Charleville. nous avons tâché d'aller à pied jusqu'à Luxembourg. C'était encore loin. Et nous sommes arrivés à Luxembourg le samedi 11 novembre 1944 à la frontière à Esch-Alzette, c'était pas loin d'ici. Oui, madame.
Monsieur Schmitt, la première fois que vous avez passé la frontière dans le sens du Luxembourg vers la France, donc en octobre 1943, c'était sans doute avec beaucoup d'appréhension, sans doute aussi le cœur lourd d'avoir laissé derrière vous des amis, de la famille. Dans quel état d'esprit vous passez la frontière dans l'autre sens, en 1944 ?
J'étais tellement heureux. Et c'était environ vers 5 heures. Il y a un pont. J'ai vu devenir mon père qui a travaillé juste à côté dans une grande brasserie de bière à Moselle. Et quand j'ai vu mon père, je suis sauté sur lui. Il ne m'a pas reconnu. C'était 14 mois que j'étais parti. Ils avaient toujours de l'espoir, mais ils n'auraient jamais cru que je me trouve soudain devant lui. Alors, en embrassant, j'ai dit à mon père, oui, c'est moi, Johnny. Il n'avait plus trouvé des mots. Nous sommes allés jusqu'à ma maison. Et là se renouvelle
La même scène avec votre mère.
La même scène, oui. Voilà.
Jeu de frontières entre la France et le Luxembourg. Julie Gacon, Yvon Croisier. Avec Johnny Schmitt, Jim Gueress, fils de Josy Gueress, cofondateur du réseau des Pimènes. Gilles Revenig, historien. Vincent Fally, président de l'amicale Albert Ungerhoyer. Willy Seivert, maire honoraire de Roussil Village. Et avec Vincent Artuseau, historien. Bibliographie à retrouver sur le site de France Culture.
LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. C'est un passage débroussaillé par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez l'emprunter, bibliographie, lien, nous podcaster pour le voyage ou nous réécouter sur la frontière, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, troisième étape, migrants et touristes le long de la voie ferrée à la frontière italienne.